le magazine des Nations Unies.
Au sommaire de ce magazine, processus électoral en RDC, le report de l'élection de gouverneur de nouvelles provinces et l'absence à ce jour de loi sur la répartition des sièges suscitent des interrogations sur le respect du calendrier électoral. Vous entendrez les attentes du Conseil de sécurité exprimées par Martin Kobler, chef de la MONUSCO, à ce sujet. Droits économiques, sociaux et culturels sont indissociables et même les piliers des droits de l'homme dans un État. Le magazine des Nations Unies a abordé la thématique avec un expert du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en marge de l'atelier de formation de membres de la Commission nationale des droits de l'homme tenue la semaine dernière à Kisantu dans la province du Congo central. L'actualité, c'est aussi le Parlement congolais qui a appelé à examiner le projet de loi sur le pygmée afin de garantir à ces derniers leurs droits des citoyens congolais à part entière. Un vœu du Fonds mondial pour la conservation à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones célébrée le 9 août de chaque année. Vous suivrez dans ce magazine un expert de cette organisation internationale dans notre décryptage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche à tous. Processus électoral et respect du calendrier électoral, le sujet a dominé l'actualité la semaine dernière. Ce sujet assez préoccupant a été évoqué non seulement à la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier, mais aussi à la rencontre de Kobler et les autorités de la CENI deux jours auparavant. Jean-Pierre Elali, Coco pour les détails.
Deux faits concrets semblent avoir ébranlé cette semaine le calendrier électoral et le processus électoral dans son ensemble. D'abord, la session parlementaire extraordinaire s'est achevée sans que les élus du peuple n'abordent véritablement la loi sur la répartition des sièges électoraux au prorata des 21 provinces nouvellement créées. Ensuite, le report par la CENI, toujours cette semaine, du 31 juillet au 6 octobre prochain, de l'élection de gouverneur des nouvelles provinces. Cette décision l'a contrainte à réaménager le calendrier électoral, même si la CENI prétend que cela n'aura pas d'impact sur le calendrier global. Ces deux faits symptomatiques suscitent des interrogations sur la suite du processus. C'est dans ce contexte que le chef de la MONUSCO a échangé lundi dernier avec le bureau de la CENI. Martin Kobler a informé ses interlocuteurs des attentes du Conseil de sécurité concernant le processus démocratique en République démocratique du Congo. Des attentes portant essentiellement sur le respect du calendrier électoral, le financement des élections et l'enrôlement de nouveaux majeurs. On écoute Martin Kobler.
J'ai informé le vice-président sur mes réunions avec le Conseil de sécurité il y a quelques semaines à New York, où le Conseil de sécurité a fait très très clair qu'il attend de la MONUSCO. C'est ce que nous avons discuté, c'est que le calendrier électoral soit respecté, la Constitution soit respectée, mais aussi le calendrier électoral doit mener aux élections présidentielles législatives au mois de novembre 2016. C'est une demande aussi dans notre résolution 22-11. La chose la plus importante maintenant, c'est d'avoir des décisions politiques, puis d'avoir un calendrier électoral.
Par ailleurs, les journalistes présents à la conférence des Nations Unies mercredi dernier sont revenus sur le sujet. Certains craignent que les deux faits énoncés soient précurseurs d'un blocage et de s'interroger surtout sur ce que la MONUSCO entend par respect du calendrier électoral et de la Constitution elle-même. Félix Basse, porte-parole de la MONUSCO, n'y va pas par le dos de la cuillère. Il répond.
Quand je parle du respect du calendrier électoral, il y a des dates qui sont consignées dans la Constitution et qui doivent être respectées. Tout ce qu'on observe aujourd'hui sur le plan politique, notamment, comme vous l'avez dit, cette session extraordinaire, ce vote en première approche de l'Assemblée nationale de cette loi concernant la répartition des sièges, tout ceci entre effectivement dans le cadre de beaucoup d'interrogations aujourd'hui, mais quand je parle du respect du calendrier électoral et de la Constitution, ce sont bien les dates qui sont indiquées dans la Constitution relatives aux élections législatives et présidentielles.
Autre actualité de la semaine, c'est la publication d'un rapport des Nations Unies sur l'augmentation de la population mondiale. Selon cette étude, notre planète passerait de 7 milliards d'êtres humains à 8 milliards et demi d'ici 2030. Quels sont les pays les plus touchés par ces phénomènes et quelles en seraient les conséquences dans ces pays et particulièrement en RDC? Je vous propose la réponse de Florence Marshall, porte-parole de l'équipe pays des agences des Nations Unies. Ces propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
La République démocratique du Congo sera l'un des 9 pays au monde qui contribueront à la moitié de la croissance de la population mondiale au cours des 35 prochaines années. Les autres pays, par ordre d'importance, sont l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, l'Éthiopie, la Tanzanie, les États-Unis, l'Indonésie et l'Ouganda. La concentration de la croissance de la population mondiale dans les pays les plus pauvres présente un ensemble de défis et rend plus difficile la lutte contre la pauvreté et l'inégalité, l'éradication de la faim et de la malnutrition, ainsi que l'amélioration de la scolarisation et des systèmes de santé.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Je le disais au sommaire, le 9 août, c'est la journée internationale des peuples autochtones. Nous sommes le 9 août aujourd'hui, donc l'événement tombe un dimanche cette année. Pourquoi une journée internationale pour les peuples autochtones? Et qui sont les peuples autochtones? Quels sont leurs droits? Pour répondre à ces interrogations, nous recevons M. Floribert Botamba Isombo. Il est coordonnateur de projet et point focal RED au WWF, Fonds mondial pour la conservation de la nature, une organisation internationale dont l'une des missions est justement la défense et la promotion de droits et des intérêts de peuples autochtones. Floribert Botamba s'entretient avec Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Floribert Botamba, bonjour.
Bonjour.
Le 9 août est une date consacrée par les Nations Unies aux peuples autochtones. Est-ce que vous pouvez nous définir le concept peuple autochtone?
Je le définirai de la façon la plus simple. Ce sont les premiers habitants d'une zone spécifique ou d'un pays ou d'une région. Je prendrai quelques exemples passés par là. Lorsque nous parlons des Indiens d'Amérique latine, et au même titre que les Indiens de l'Amérique du Nord, lorsque nous pensons aux habitants de la Nouvelle-Guinée, de la Papouasie, lorsque nous pensons aux autochtones pygmées de l'Afrique centrale et de la RDC, nous pouvons déjà voir de qui nous parlons.
Donc en RDC, il n'y a que les pygmées comme peuple autochtone?
Non, ça c'est pour le concept de peuple autochtone pygmée. Lorsqu'on fait le plaidoyer, on met l'accent sur un groupe très marginalisé au niveau de la RDC qu'on appelle le peuple autochtone pygmée. Et il y en a 5 qu'on retrouverait. Il y a les Twa, il y a les Aka, il y a le Mbuti, il y a aussi le Mbororo et les Babongo. Donc là nous parlons de la RDC, mais il y aurait aussi d'autres groupes. S'ils sont premiers dans leur zone, je pense qu'on ne pourrait pas enlever leur capacité d'être les peuples autochtones dans leur zone respective.
Oui, Flori Botamba, qu'est-ce qui distingue ces peuples autochtones d'autres peuples à travers le monde?
C'est leur manière de vivre, en fait. Les peuples autochtones, de façon générale, respectent leur habitat, respectent leurs ressources naturelles, les gèrent de façon durable, aussi vivent en paix avec les autres communautés environnantes et ils veillent au bien-être de leur progéniture en leur transmettant leur façon de vivre pour pérenniser leur habitat. Donc, parmi tant d'autres qualités qu'ils ont. Ils maîtrisent la pharmacopée, donc ils ne sont pas des gens qui vivent de façon arrogante, mais plutôt de la manière la plus simple possible.
Donc on dirait que les peuples autochtones ont quelque chose à apporter aussi à la civilisation actuelle.
Bien sûr, si je prends les cas que nous vivons dans nos villages, lorsqu'on perd quelque chose qu'on n'a pas pu trouver, on va très vite chez les autochtones pygmées dans les cas de la RDC. Lorsqu'on est malade, qu'on n'a pas pu soigner cette maladie par d'autres voies, qu'on a besoin de soins traditionnels, on va vite chez les peuples autochtones pygmées. Lorsqu'on a besoin de se retrouver dans la forêt pour telle ou telle autre raison, le meilleur guide sont les peuples autochtones pygmées. Lorsqu'on a besoin de cette sagesse africaine qui retrace nos origines, je crois que ce sont les personnes les mieux indiquées. Vous imaginez, ils connaissent bien leur forêt, ils connaissent bien les espèces forestières, ils connaissent bien les espèces animales et ils connaissent bien aussi comment vivre en symbiose avec la nature. Donc, ils ont énormément de choses à partager avec nous. Ce que nous appelons de façon technique le savoir endogène, ils le maîtrisent mieux que quiconque.
Pourquoi une journée internationale pour ces peuples autochtones?
Pour la simple et bonne raison que ces peuples marginalisés de par le monde. Vous connaissez l'histoire des Indiens américains. Certains sont dans des réserves. Donc on a créé des réserves pour ces populations. Vous avez au niveau de l'Amérique latine, ils n'ont pas la même liberté que les autres. Vous connaissez comment vivent les pygmées dans des coins spécifiques du pays. Ils sont marginalisés alors que c'est une personne ayant les mêmes droits qu'un autre Congolais qui devait vivre de la même manière, si nous prenons le cas du Congolais. La constitution est faite aussi pour elle, donc on devrait respecter la personne du peuple autochtone pygmée autant qu'on respecterait d'autres. Il y a un projet de loi qui avait été déposé au Parlement sur le peuple autochtone pygmée. Nous prions le Parlement à faire son travail et légiférer et de pouvoir donner au peuple autochtone pygmée ce qu'ils ont demandé depuis longtemps, une simple reconnaissance, une vie normale comme tout autre citoyen de ce beau pays.
Vous êtes du Fonds mondial pour la conservation. Est-ce que nous pouvons connaître la mission de votre organisation par rapport aux droits des peuples autochtones?
Je crois que nous avons une mission d'abord d'une manière générale qui met l'accent sur une vie commune et harmonieuse entre l'homme et la nature et s'assurer que l'homme ne détruise pas la nature, diminue le taux de la pollution et fait en sorte qu'il y ait cette nature-là pour les générations présentes et les générations futures. Lorsque nous parlons de cette façon, cela cadre totalement avec la manière de vivre des peuples autochtones pygmées qui, eux, mettre l'accent sur les valeurs même de la protection de la nature et de vivre en communion entre l'homme et la nature. Et en même temps aussi, pour nous, nous veillons à ce que, dans notre mission, de veiller sur la sécurisation foncière, parce qu'actuellement, ils n'ont pas de zones spécifiques, hein, comme les autres communautés qui diraient « ça c'est mon village ». Ils n'ont pas de chefs coutumiers comme les autres, de la meilleure façon qu'ils soient. Aujourd'hui, vous trouverez quand même certains responsables au niveau de leur clan et tout ça. Mais ils ne se prévalent pas comme les autres, disant que ça c'est notre terre, c'est la terre de telle ou telle autre personne. Ils trouvent que la forêt est leur habitat. Donc ils n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais au fond, nous voudrions nous assurer de la sécurisation de leur habitat, de façon à ce qu'ils puissent vivre librement et avancer. Nous voulons nous assurer aussi qu'il y ait une amélioration de leurs conditions de vie, comme toute autre personne, qu'ils aient accès à l'éducation, qu'ils aient accès aux soins de santé. Nous veillons aussi à ce qu'ils puissent accéder au financement pour améliorer leur condition de vie. Nous nous assurons aussi qu'ils puissent améliorer leurs capacités de façon à améliorer la façon de vivre de leurs enfants et aussi de leurs petits-enfants.
Oui, ça c'est au niveau des principes, mais concrètement, quelles sont les actions, des projets concrets que vous avez déjà eu à réaliser par rapport à cette mission?
Concrètement, nous avons rassemblé tous les messages clés en rapport avec le peuple autochtone, c'est-à-dire tous les droits. C'est au niveau international, au niveau régional, au niveau national, qui concernerait le peuple autochtone pygmée. Nous avons mis sous forme d'un recueil qui permet aux communautés locales et peuples autochtones d'accéder à ces informations pour revendiquer leurs droits. Et en même temps aussi, nous renforçons les capacités des organisations non gouvernementales à 100% gérées, formées par les peuples autochtones pour qu'elles soient mêmes de mettre en application leurs plans de gestion ou leurs idées de gestion, leurs idées de projets. Nous appuyons les organisations non gouvernementales locales et nationales qui œuvrent pour la cause des peuples autochtones pygmées et nous appuyons les réseaux nationaux émanant du CEPDAC au niveau régional, en fait, qui est le REPALEF de façon institutionnelle. Nous payons le loyer de leur bureau, nous les assistons dans l'organisation de plusieurs activités. Mais au-delà de cela, nous appuyons des micro-projets pour les peuples autochtones pygmées. Nous appuyons également les peuples autochtones pygmées dans le suivi de la mise en œuvre des cahiers de charges qu'ils auraient signés avec le concessionnaire forestier. Mais on s'assure aussi dans les différents processus tels que les changements climatiques. Nous tournons vers les communautés autochtones qui ont le savoir indigène pour pouvoir lutter également contre ces fléaux. Et je vous assure, vous apprenez beaucoup de choses en leur compagnie.
Flori Botamba, merci de votre disponibilité.
Des nouvelles en bref, un concours mondial de contes et dessins pour la paix, c'est par là que nous ouvrons cette page. En effet, de jeunes de 5 à 18 ans sont appelés à participer à un concours organisé par l'ONU et l'Organisation internationale de la francophonie OIF Tous les enfants et jeunes du monde sont invités à participer à ce concours mondial pour la paix. La catégorie des 5 à 10 ans devra soumettre un dessin, alors que celle des 11 à 18 ans est appelée à soumettre un conte rédigé en français ou en anglais. Des dessins et des contes qui doivent illustrer la paix et la diversité culturelle comme gage de la paix. Les jeunes de la RDC sont encouragés à participer à ce concours et les œuvres sont à adresser par mail avant le 31 août à l'adresse suivante contelapaix@francophonie.org. Je reprends, contelapaix@francophonie.org. Les prix seront annoncés au siège des Nations Unies à New York le 21 septembre 2015 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix. Autre nouvelle, environ 95 tonnes de vivres distribuées à plus de 5500 personnes, dont des réfugiés burundais dans le territoire des Fizi et Uvira au sud Kivu. Une assistance du programme alimentaire mondial PAM, offerte du 27 juillet au 1er août dernier en collaboration avec l'ONG World Vision. Les 95 tonnes serviront à nourrir ces personnes pendant 30 jours. Pour les sanitaires, bientôt un plan opérationnel national VIH-SIDA pour la période 2015-2016. Un atelier pour l'élaboration de ces plans s'est tenu à Kinshasa du 4 au 6 août 2015 et auquel l'ONU-SIDA a participé. Près de 150 personnes venues de toutes les provinces de la RDC y ont pris part. L'objectif du plan opérationnel national VIH-SIDA est notamment d'améliorer la prévention, les traitements et le soin, ainsi que d'éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant.
Les mines et les bombes blessent et tuent. Les mines et les bombes ont fait beaucoup de victimes en RDC. Les mines et les bombes sont de différentes formes, couleurs et tailles. Ne les approchez pas, ne les touchez pas, restez prudents. Votre vie n'a pas de prix. Ne prenez pas de risques inutiles. Informez l'autorité la plus proche. Message de l'UNMAS RDC.
Magazine des Nations Unies. Bienvenue.
Nous revenons ce dimanche sous la télé de formation de Kisantou. Les membres de la Commission nationale de droits de l'homme ont été initiés du 26 au 30 juillet dernier aux notions de base de droits humains. La thématique « Droits économiques, sociaux et culturels » a occupé une place de choix dans cette formation. Raphaël René Yoofis, coordonnateur régional du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en Ituri, et l'un des intervenants s'entretient avec Jean-Pierre Ilali Coco sur la thématique. Suivez.
Raphaël Yoofis, bonjour.
Bonjour à vous, Capi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par les droits économiques, sociaux et culturels?
Les droits économiques, sociaux et culturels constituent ce qu'on appelle la deuxième génération des droits de l'homme en général. Mais pour expliquer ça de façon plus terre à terre pour que le citoyen ordinaire nous comprenne, il s'agit des droits élémentaires et basiques de l'homme. Il s'agit du droit à l'éducation, du droit à la santé, du droit à un niveau de vie suffisant, c'est-à-dire droit au logement, droit à la nourriture, droit à les besoins de base d'un citoyen normal. Donc c'est des droits élémentaires de l'homme et il était important qu'on en parle.
Et alors, à ce sujet, est-ce qu'il y a une différence entre les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques et même collectifs?
D'abord, je vais préciser, les droits de l'homme sont tout d'abord indivisibles, donc ils sont tous importants. Mais la différence réside au niveau de la mise en œuvre de ces droits. Les droits civils et politiques sont des droits d'application immédiate, donc on peut revendiquer immédiatement, alors que les droits économiques, sociaux et culturels sont ce qu'on appelle les droits d'application progressive. Donc la réalisation dépend des ressources dont dispose l'État. Donc c'est des droits qui sont aujourd'hui encore des droits à problème parce que les États n'ont toujours pas les ressources nécessaires pour pouvoir les réaliser pour le compte des citoyens.
Donc, vous avez dit que les États peuvent faire aussi recours à l'aide de la communauté internationale.
C'est ce qui est prévu dans le pacte. Donc il est prévu dans le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels que les États réalisent progressivement ces droits, soit par leurs ressources propres, soit alors en recourant à l'aide de la coopération internationale. Donc c'est ce qui est prévu. Encore une fois, je répète, c'est des droits qui sont sujets, n'est-ce pas, aux ressources qui sont mobilisées par l'État, donc ressources dont dispose l'État. Ça peut être des ressources propres, ça peut être des ressources qui sont collectées à la suite des appuis venant de la communauté internationale.
Parlons un peu des mécanismes et des contrôles de ces droits économiques, sociaux et culturels. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot?
Nous avons expliqué toute cette journée qu'il y a plusieurs sortes de mécanismes. Nous avons ce qu'on appelle les mécanismes conventionnels, qui sont des mécanismes qui dérivent des traités qui sont ratifiées par la République démocratique du Congo. Donc le pacte sur les droits civils et politiques a un mécanisme de surveillance qu'on appelle le comité des droits de l'homme. Le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels a un mécanisme de traité qu'on appelle le comité des droits économiques, sociaux et culturels. Donc vous avez ces mécanismes qui prévoient, n'est-ce pas, des procédures de plainte, qui prévoient également des procédures de visite dans les pays pour mener des enquêtes pour les membres des commissions. Nous avons parlé de ces mécanismes-là, des mécanismes de traité. Nous avons également parlé des mécanismes qui sont des mécanismes de procédure spéciale, dont les envoyés spéciaux, les rapporteurs spéciaux, les groupes de travail, qui peuvent également faire des enquêtes, soit thématiques, soit par pays, n'est-ce pas, afin de vérifier la situation des droits de l'homme dans les pays où il y a des allégations de violation de ce type de droit. Nous avons parlé de l'examen périodique universel, qui est un mécanisme qui existe et qui suit également le respect des droits de l'homme dans tous les pays du monde aujourd'hui. Et c'est un mécanisme auquel la RDC a d'ailleurs participé il y a un an environ. Nous avons parlé également d'autres mécanismes comme le protocole facultatif qui se rattache au pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui prévoit une procédure de plainte, qui prévoit une procédure d'enquête qui existe aujourd'hui et dont on attend la ratification toujours par la RDC. Le plaidoyer est en marche pour que ce soit fait. Nous avons parlé également des mécanismes régionaux. Nous avons abordé une discussion assez importante sur la non-existence au plan national des mécanismes de surveillance et de contrôle des droits économiques, sociaux et culturels.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, lorsque il n'existait pas ces mécanismes-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vois ici même la Commission nationale des droits de l'homme.
Il y a un plaidoyer qui est en cours depuis que ce protocole a été adopté. Nous continuons le plaidoyer et la Commission nationale des droits de l'homme a un rôle important à jouer par rapport à ce plaidoyer. Mais il y a également d'autres mécanismes qui peuvent être pris par la RDC. La nomination des médiateurs sur les questions économiques, sociales et culturelles, ça peut être un bon signe envoyé par le gouvernement pour pouvoir, n'est-ce pas, s'occuper de ces questions essentielles qui sont la priorité des citoyens. Je rappelle que dans la plupart de nos pays africains aujourd'hui, la question est celle de l'éducation des enfants, la question est celle de la santé, la question est celle des niveaux de vie suffisants, la question est celle du droit au travail pour les nombreux jeunes qui sortent des écoles et qui attendent le travail. Donc c'est des questions essentielles pour lesquelles un médiateur de la République ne serait pas malvenu pour que l'État envoie un signal, n'est-ce pas, qui confirme qu'il est préoccupé par ces questions et qu'aujourd'hui il s'engage à pouvoir jeter un regard assez positif, à ouvrir une réflexion pour trouver des pistes de solutions.
Et dans votre intervention, vous avez parler du budget. Quelle est l'influence du budget dans le respect, par exemple, des droits économiques, sociaux et culturels dans un pays comme le nôtre?
Le budget a une importance capitale par rapport au respect des droits économiques, sociaux et culturels. Parce que le budget définit les priorités d'un État. Donc, quand vous lisez un budget, vous pouvez faire l'analyse d'un budget par rapport aux allocations budgétaires qui sont faites. Et donc, quand vous prenez un budget, que vous pouvez l'analyser en termes de ratio, en termes de pourcentage du budget, n'est-ce pas, alloué à tel ou tel secteur de l'État par rapport au secteur des droits économiques, sociaux et culturels. Et je prends un exemple simple. Je prends l'exemple d'un budget comme celui de la santé. Vous pouvez l'analyser par rapport au budget qui est alloué à d'autres services, à d'autres ministères.
Personnellement, nous avons constaté que c'est un ratio vraiment à temps de scie.
Oui, mais c'est un ratio à temps de scie et c'est justement l'une des préoccupations des défenseurs des droits de l'homme, c'est qu'il y a une obligation de non-régression, n'est-ce pas, en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Autrement dit, normalement, le budget devrait aller plutôt à la hausse. On constate quand même une hausse du budget depuis les deux dernières années. On avait 11% environ et 9,5%, donc c'est déjà pas mal. Par rapport aux années précédentes, on avait des budgets de 4%, de 3%, en montant à 5% ou 6%. Donc, il y a peut-être une régression qui est constatée, mais si on regarde de façon générale, on est plutôt sur la bonne tendance. Et le souhait, c'est qu'on aille de l'avant et qu'on essaye de voir dans quelle mesure on peut augmenter ce genre de budget pour qu'on puisse répondre aux besoins des citoyens.
Et la CNDH a un rôle à jouer dans même la composition et même des plaidoyers pour l'exécution, la bonne exécution du budget.
La CNDH, en tant que commission nationale, doit pouvoir maîtriser le mécanisme du budget par rapport à l'approche droit de l'homme. Il est important pour la CNDH de savoir quelle est la part du budget attribué au secteur de droits de l'homme pour savoir si effectivement l'État assure effectivement le respect et la promotion de ces droits de l'homme. Donc justement, l'exposé d'aujourd'hui visait à sensibiliser les membres de la Commission nationale des droits de l'homme sur l'importance de ce mécanisme de budget qui traduit, comme je l'ai dit au début de cet entretien, les priorités de l'État par rapport aux allocations qui sont faites. Donc il est important pour les membres de la CNDH de savoir faire ce qu'on appelle une analyse budgétaire, une lecture budgétaire, ou alors de recourir à une expertise budgétaire qui puisse en sous-traitance leur expliquer de façon claire quelle interprétation donnons aux chiffres du budget, parce que c'est des chiffres, mais c'est des chiffres qui parlent.
Pour terminer, vous avez un dernier mot sur l'atelier dont vous aviez été vraiment l'un des intervenants. Et est-ce que vous avez un dernier mot sur la CNDH qui vient de se mettre en place?
Je pense que l'atelier il tombe au point nommé pour les membres de la CNDH. C'est toute une nouvelle commission nationale droit de l'homme. C'est très important de pouvoir renforcer les capacités de ses membres. Si je parle en tant que personnel du bureau conjoint des Nations Unies droit de l'homme, je dirais que nous allons sûrement contribuer à renouveler ce genre d'expérience afin de bâtir une expertise autour de la CNDH, parce que c'est un outil pour lequel on a bataillé extrêmement longtemps et qui est attendu depuis de nombreuses années. Nous sommes très heureux que cette commission ait vu le jour. Nous allons apporter tout notre soutien pour que cette commission puisse faire le travail comme il faut. Et pour qu'elle le fasse, il faudra qu'elle soit outillée en matière de droits de l'homme, en matière de normes de droits de l'homme, en matière du contenu, n'est-ce pas, des thèmes de droits de l'homme. Et nous allons continuer à travailler en étroite collaboration avec la CNDH. C'est notre partenaire naturel pour pouvoir apporter l'expertise qu'il faut à ses membres et leur permettre de répondre à la demande qui est celle de pouvoir surveiller et contrôler le respect et la promotion des droits de l'homme en RDC.
Monsieur Raphaël Ayo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie au CAPI.
Nouvelle de province à présent, plus de 600 ressortissants de la RDC réfugiés en RCA depuis 6 ans doivent être rapatriés au pays grâce à un pont aérien établi par le HCR. Ces Congolais avaient fui vers la République centrafricaine pour échapper aux attaques de l'armée des résistances du Seigneur LRA, la rébellion ougandaise. La première vague de ces rapatriements a eu lieu le lundi 3 août dernier, selon un communiqué du HCR parvenu au magazine des Nations Unies en début de semaine. Cette opération devrait s'effectuer pendant 3 semaines en 12 rotations. Revenons d'abord sur la première rotation avec Jacques Moukonkolé.
À cette première journée de rapatriement, 40 volontaires ont regagné le pays. Ils ont été transportés par un aéronef des Nations Unies affrété par le HCR. La plupart sont originaires du territoire d'Ango. D'autres sont ressortissants des Bondo dans la province du Bas-Ouélé ou des Faradji et Isiro dans les Haut-Ouélé. Certains d'entre eux justifient leur retour par le mal du pays. D'autres dénoncent les mauvaises conditions de vie au camp des Émiaux et l'impossibilité de bien évoluer dans les affaires. Selon le chef de bureau du HCR Ango, Trésor Karoumé, tous ces anciens réfugiés congolais passeront 24 heures au centre de transit d'Ango avant de regagner leur famille. Le HCR leur donne des frais de transport ainsi que de l'argent pour la ration alimentaire pour un mois. L'argent de transport varie selon la distance à parcourir, 40 ou 65 dollars pour les ressortissants d'Ango, Soukadi et Gouané, 180 dollars pour ceux qui doivent aller à Isiro et Faradje. La ration alimentaire est évaluée à 40 dollars par personne. Signalons que le camp des Émiaux en Centrafrique compte actuellement 3100 réfugiés congolais. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce jour porte sur le conflit communautaire entre Louba et Pygmée dans le Katanga. Félix Bass, porte-parole de la MONUSCO, répond à la question d'un journaliste.
C'est le bon Kamala pour le compte du journal Le Globe Terrestre. Je voulais un peu savoir ce que préconise la MONUSCO pour rétablir la cohabitation pacifique entre les communautés Pygmée et Louba au Katanga. Il ne s'agit pas d'une guérilla, quand même ce sont des communautés qui s'entretuent. Quelles sont peut-être les méthodes pédagogiques qu'il faut utiliser pour ramener ces deux communautés à cohabiter pacifiquement? Merci.
Comme vous le savez, le conflit entre les Louba et les Pygmées est un conflit à la limite séculaire qui trouve ses origines, bien sûr, dans la cohabitation que vous venez d'indiquer, notamment dans le Katanga. Particulièrement, nous avons observé les temps derniers une recrudescence quand même de violence dans le Nyunzu. Il faut saluer d'abord l'engagement des autorités locales et de certaines autorités de la MONUSCO qui ont mené plusieurs missions, notamment M. Kobler, pour essayer de susciter une réconciliation entre ces deux communautés. Il faut saluer tous ces efforts-là. Donc nous pouvons vous dire que nous y travaillons et nous y travaillons par d'autres méthodes afin de mettre un terme à ce conflit entre les Louba et les Pygmées.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'Isi.
Bonjour, je m'appelle Ali Dungapna, de nationalité camerounaise. Je suis le chef de bureau de terrain de Kinshasa pour le compte du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Après mon baccalauréat, j'ai intégré l'université de Yaoundé où j'ai suivi un cursus universitaire en mathématiques. Après l'obtention de mon diplôme d'études universitaires générales, c'est-à-dire 2 années d'études universitaires en mathématiques, j'ai décidé de changer de cursus universitaire pour m'inscrire à la faculté de droit de l'université Kofi Annan de Guinée à Conakry. Après 3 années d'études, j'ai obtenu ma licence en droit public correspondant au gradué ici en RDC et je me suis par la suite inscrit dans un programme de master en droit de l'homme à l'Université catholique de Lyon en France, à l'Institut des droits de l'homme. 2 ans plus tard, j'ai obtenu mon master 2 en droit de l'homme, option recherche en histoire et théorie du droit, concentration histoire, droit et droits de l'homme. J'ai également eu un master en justice transitionnelle à l'Université de Ulster en Irlande du Nord, avant de m'inscrire en thèse de doctorat à l'Université de Montréal. Au Canada. Actuellement, je suis inscrit là-bas et je fais également mes travaux de recherche sur le système de sécurité et de défense en République démocratique du Congo. J'ai rejoint la MONUSCO en 2010 en tant que volontaire des Nations Unies au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. J'ai eu un parcours assez varié parce que j'ai travaillé pendant 2 années à Kinshasa au sein des unités enquête et rapport, ensuite à l'unité de justice transitionnelle et de lutte contre l'impunité. J'ai été nommé comme le chef de bureau de terrain à Kalemie pour le compte du BCUDH. Après le bureau de Kalemie, j'ai rejoint le bureau de JMAC, c'est la cellule d'analyse de la mission à Bukavu, en tant que chef de bureau, avant de revenir à Kinshasa, mars de cette année, comme chef de bureau de terrain pour le BCNUDH. Bon, mon temps libre, je le passe essentiellement sur Internet. Je fais également du sport, je fais du fitness quand j'en ai le temps et je me suis récemment mis au tennis. J'adore la musique congolaise, mon musicien préféré, c'est d'ailleurs Félix Wazekwa, qui a des paroles très, très, très intéressantes. Et ma chanson préférée, c'est la chanson Moussala, qui parle du travail et de la valeur que le travail donne à la dignité humaine. Plutôt la chanson que je maîtrise le plus, c'est Mon gâteau à moi, de Félix Wazekwa. Et dans sa chanson, c'est « Ba pâtissier, ba sala, na bango, ba gâteau ». Mais au Zagato Yanzambe et Silibi, Soukali et Koka, Miliki et Koka. Donc, ce sont les paroles de la chanson que je maîtrise. J'adore également manger du poisson à Kinkole et je le fais une fois par mois. Dans l'avenir, j'aimerais travailler dans l'enseignement. Professeur d'université, ça m'irait bien. Et j'aimerais aussi continuer à faire des recherches, des consultations et apporter ma contribution dans la résolution des conflits et la reconstruction de l'état de droit. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Deux rendez-vous à ne pas manquer. Notez d'abord dans votre agenda ces rendez-vous du PNUD le 12 août. C'est le lancement de la rédaction de la stratégie nationale sur le PME. Et n'oubliez pas non plus que ce même 12 août, c'est aussi la date de la Journée internationale de la jeunesse. Merci de votre aimable attention. Ce magazine était supervisé par Ben Kabamba, sous la coordination de Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missenga était au reportage. La mise en onde assurée par Jean-Noël Mokondo et Nadine Foulan Timba vous l'a présenté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.radiokapi.net. Au revoir.